un peu de super bourré, quelques beautés du geste et aussi de l'equalizer. On parlera des sorties à venir, mais aussi de ce que vous avez vu le week-end écoulé. C'est bien sûr Opening Weekend et c'est le deuxième numéro de la saison 11. C'est parti.
Débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a affiché complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Saison 11, oui, ça peut surprendre, mais saison 11 de Débris Film, bien sûr, parce qu'on était dans la saison 10 l'année dernière, mais deuxième saison, bien entendu, puisqu'on me faisait des petites remarques comme ça, à droite à gauche, de la table sur Opening Weekend. Oui, vous n'avez pas raté 9 saisons d'un coup, mais ça fait plaisir de vous retrouver et avec à mes côtés, bien sûr, Tom Abrami. Salut Tom.
Bonjour à tous.
Julien Bernard, de retour. Salut Julien.
Bonjour tout le monde, je suis en feu.
Quentin Dufournet, également de retour. Il est en feu aussi, peut-être.
Oui, tout à fait. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver.
Max Marjolais aussi à mes côtés. Salut Max.
Yo.
Et Charlotte Escolier qui devrait nous rejoindre si les transports le veulent bien. Vous étiez nombreux la semaine dernière à nous écouter et c'est toujours agréable de reprendre et de se remettre comme ça dans le feu de l'action avec vos retours. Et je sens que d'ailleurs on va peut-être refaire un peu régulièrement ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire vraiment des discussions comme ça sur des petits sujets, des petits questionnements sur à quoi pourraient ressembler aussi les années futures, le Hollywood futur ou autre.
Le cinéma en intelligence artificielle.
Ah, écoute, ce sera peut-être un débat futur. Quoi qu'il en soit, c'est encore une belle semaine de cinéma que nous venons de vivre à vos côtés, puisque on va le voir tout à l'heure, mais les salles françaises ont fait de belles entrées, notamment grâce à la Palme d'Or, mais pas seulement. On va voir que des titres dont on parlait déjà la semaine dernière reviennent encore dans le haut du tableau. Et j'ai envie, Julien, de te laisser dès maintenant la parole pour nous parler justement worldwide de ce qui s'est passé avec, et je voudrais le pointer tout de suite, eh bien, ce film chinois qui était premier la semaine dernière, qui a rétrogradé de quelques places pour laisser place, non pas à des nouveautés, mais à des films qu'on connaît bien.
Ouais, mais le film chinois, je sais que tu es spécialiste de la Chine, donc je vais te laisser en parler. Moi, je vais juste commencer d'abord, juste, on se fait un petit point box-office US, rapide. Le marché, il a ouvert à 92 millions de dollars. C'est à peu près équivalent à la semaine dernière. C'est en dessous de la barre des 100 millions, vous savez bien, la barre symbolique. Et cette semaine, il y avait Gran Turismo qui sortait et qui a fait 17 millions. Voilà, c'est pas un énorme chiffre puisque c'est à peu près le même chiffre que Barbie qui en est à sa sixième semaine.
On avait pointé la semaine dernière le fait que Gran Turismo arrivait dans les salles américaines et sur la plupart des marchés longtemps après les salles françaises. Alors on pouvait, c'est toujours un peu un cas d'étude comme ça pour voir est-ce que les salles françaises donnent le là ou pas sur le reste de la tendance. Et grosso modo, c'est un peu le cas là quand même.
Non, quoi, on reviendra sur les résultats français. Moi, je les trouve quand même plutôt positifs.
Ouais.
Là, avec 17 millions, si on prend un peu, c'est Assassin's Creed, il avait ouvert à 10 millions. Resident Evil, 13 millions. Mortal Kombat, 23. Tomb Raider, 23. Warcraft, 24. Et Uncharted, 44. Donc, ça se situe à peu près au milieu.
Quel Resident Evil ?
Resident Evil, The Final Chapter, en 2017.
Merci.
Et à noter que Gran Turismo, donc, puisque tu en parles à l'instant, sur le Worldwide, a fait, si je ne me trompe pas, sur le week-end écoulé, 28 300 000 dollars.
Ouais, il est actuellement, avec l'international, il est à 53,8 millions et c'est 67% en provenance de l'international. Évidemment, puisqu'il vient juste de sortir aux États-Unis et il y a d'autres marchés qui vont ouvrir. Alors, si on se positionne sur le Worldwide, comme tu l'as dit, en tête, cette semaine, c'est Oppenheimer.
C'est la première fois qu'il prend
la première tête. Fois, oui. Alors, je n'ai pas vérifié, mais je pense effectivement que c'est la première fois. Alors, il est à un niveau de 777 millions de dollars. À l'international, il a baissé 31%. C'est un petit peu plus qu'au domestique où il a baissé de 16%. Donc, c'est le 111e film all-time. Il est entre Deadpool en 2016, hein, pour Max, le premier Deadpool, qui était à 782, et Star Wars 1977, qui est à 775 millions.
Alors, juste une petite pause tout de même là-dessus. On pointait la semaine dernière le fait que Oppenheimer avait fait une carrière folle et avait des chiffres stratosphériques, alors qu'il avait toujours été second, ou en tout cas jamais premier. à ma connaissance, il faudra peut-être me ressortir un exemple d'un film qui, en sixième semaine, arrive à se hisser à la première place du classement mondial.
On essaiera de trouver, mais il va falloir chercher longtemps, je pense.
Non, mais c'est beau, en tout cas. C'est
Donc, il a battu tous les films de Nolan, exception faite, bien sûr, des Batman. Mais il est passé devant Inception, qui était à 728, Interstellar et Dunkerque, c'était déjà fait. Et en IMAX, il est en quatrième ou cinquième position all-time. Important de le préciser aujourd'hui, vu l'importance de l'IMAX.
Tu dis exception faite des Batman, mais je crois de pas tous les Batman. Batman
non,
Begins.
C'est Dark Knight et Dark Knight Rises.
Voilà.
Ensuite, Barbie, un petit point sur Barbie quand même, qui est en deuxième position. Alors, Barbie à l'international, il a perdu 32%, il a perdu 19% au domestique. Maintenant, il est à 1 340 milliards. Alors, il y a eu beaucoup d'annonces comme quoi il était premier sur l'année 2023, ce n'est pas encore le cas, puisque Mario est à 1 450 milliards. Donc il reste 10 millions qui vont récupérer peut-être dans la journée ou d'ici demain, mais en tout cas Barbie donc va prendre la tête du classement en 2023, mais aujourd'hui ou demain. Et au niveau all-time quand même, à noter, il se place en 18...
Il reste 100 millions, non? Parce qu'on était à 1 340 millions, tu parles de 1 400
millions. Ah pardon, tu as
raison. Enfin, 1 340 milliards, 1 450 milliards, c'est, on parle de 100 millions.
Oui, donc on va attendre un petit peu. Mais c'est parce que j'avais lu justement des articles comme il était déjà passé premier, mais non, il y a un petit peu de temps encore.
Et d'ailleurs, là aussi, hein, pour des questions de proportion, bien vous rendre compte que si Barbie passe à la première place, passe donc devant Mario, passe devant le 1 400 et quelques, il aura fait deux fois le score d'Oppenheimer si Oppenheimer s'arrêtait maintenant... au niveau worldwide, quoi, j'entends.
Exactement.
Ce qui est quand même assez fou.
Et donc Barbie se place en 18e position. Lui, il est entre Harry Potter 2011 et Star Wars 2017. Et on a quoi d'autre? On a Blue Beetle. Il en est où, notre Blue Beetle? Alors, Blue Beetle, le pauvre, il a perdu 52% international, 49% domestique. Il cumule 82 millions de dollars. Et donc il est en route pour être le plus bas score pour un film DC Comics, puisque le plus bas c'est Shazam Fury of God, qui est à 132 millions de dollars. La rage des dieux, merci Dan.
Et en parlant de suite, Meg 2 qui lui est derrière, juste derrière Blue Beetle au classement international, enfin au classement worldwide pardon, sur le week-end.
Alors j'ai un trou, alors je sais plus, mais non, si c'est sur le box-office US, il est 38% en dessous du premier Meg. Ouais. On verra qu'en France, c'est des résultats un petit peu différents. Mais donc sur le worldwide, quand même, c'est 352, c'est un beau chiffre. Hein.
Ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que l'international aide ce film. D'ailleurs, souvent, les films avec Jason Statham ou Dwayne Johnson sont aidés par l'international.
Donc pour rappel, Meg, c'est pas le biopic sur Meg Ryan, hein. C'est bien En eau très trouble.
Que tu attends impatiemment.
En eau très très
trouble. Tu attends le biopic sur Meg Ryan, visiblement.
Je crois qu'il n'est pas le seul.
Un point aussi sur les Tortues Ninja, peut-être. Je ne vais pas redire le titre US qui est à la rallonge.
Qui est à dormir dehors.
Les Tortues Ninja, il en est où? À 135 millions de dollars. Je vous laisse...
Conclure.
Conclure, ouais, voilà. Est-ce que c'est un bon... Non,
c'est décevant. C'est décevant.
On l'attendait bien évidemment plus haut, mais c'est jamais évident d'imposer... Alors, je ne sais plus, hein, les derniers Tortues Ninja, je crois qu'il y en a un qui était à plus de 400 millions, 450. Donc forcément, 450, 135, on l'attendait un petit peu plus haut. Et je crois que le dernier, il était autour de 250.
Et puis Strays, dont on parlait la semaine dernière, qui arrive à la 10e place du box-office.
Et Strays qui ne sortira plus en France.
Ah, voilà. Ça a changé. Il était encore annoncé
Il était annoncé en novembre, mais il vient d'être retiré du calendrier.
D'accord.
Il avait un titre français, mais finalement pour du beurre.
Voilà, c'était quoi le titre français déjà?
C'était Backstreet Dogs.
Oui, on l'a cité déjà, c'est
et
ça.
Et à noter qu'il sortira en Allemagne, ça c'est l'anecdote marrante, il sortira en Allemagne sur le nom de Doggy Style. Donc c'est osé.
D'accord, donc rien à voir avec Dogman.
Rien à voir.
Non, mais...
Est-ce qu'il ne sortira pas en France sous le nom de Strays ou sous le nom de Backstreet Dogs?
On vous laisse taper Doggy Style sur Internet, hein, sur Google, vous mettez Doggy Style.
Amateur de la palme dog, il faudra vous rabattre sur autre chose. Juste un mot aussi sur les films chinois, parce qu'on a donné tous les titres américains qui sont dans le top 10 monde. Il y a quand même encore trois films chinois dans le top 10 monde, les trois mêmes d'ailleurs que la semaine dernière. No More Bets, qui rétrograde donc à la troisième place, mais avec quand même un cumul assez exceptionnel pour un seul territoire de 467 millions de dollars. C'est bien au-dessus hein, des cumuls monde de la plupart des films qu'on a cités. Puis également Papa, qui là aussi est sorti qu'en Chine et récolte à ce jour 58 millions de dollars. Et Creation of Gods Part 1, qui en est à 335 millions de dollars. Donc c'est aussi pour vous dire que tout ne repose pas que sur le box-office US, ou en tout cas sur les films US. À noter qu'il n'y a pas de film français dans ce top monde, donc on parlera certainement de la Palme d'Or tout à l'heure, mais là aussi pour vous dire que le ticket d'entrée dans le top monde est quand même assez élevé.
Pour y accéder, et à noter juste pour revenir sur The Meg, pour le positionner un petit peu, juste au-dessus on retrouve Indiana Jones qui a 379 millions, John ouais. Wick qui a 426, et en dessous quand même Creed 3 qui a 275, dont on a parlé, on a dit que les scores étaient
fous. Ouais.
Donc c'est juste pour remettre en place The Meg 2, pour dire c'est que vrai. c'est quand même énorme.
C'est quand même une très belle opération pour Warner, qui donc a enchaîné Barbie et Meg 2 avant d'être déçu par Blue Beetle. Voilà. Un point sur le box-office US, du coup, il y avait d'autres choses à dire, Julien, ou c'était tout ce qui ressortait ?
Non, on a tout englobé. C'était juste surtout pour dire que Gran Turismo avait démarré au niveau de Barbie qui est en sixième semaine.
Ça resitue effectivement les choses. Puisqu'on parle des US, forcément, il faut qu'on dise un mot, et peut-être plus d'un d'ailleurs, sur cette grève qui secoue Hollywood aujourd'hui. Grève qui n'est pas forcément facile à saisir depuis la France. Tom, tu voulais faire un petit point là-dessus justement.
Ouais, on s'était dit que c'était bien de rappeler un petit peu les tenants et aboutissants de cette grève, parce que c'est pas forcément très simple pour tout le monde de comprendre les enjeux. Alors, donc juste, on va remettre un petit peu de contexte. Donc la grève, donc c'est une grève des scénaristes au départ, qui a cours depuis début mai. Donc, comme vous le savez très précisément, aux États-Unis, ce sont les syndicats qui régissent énormément le cinéma. Le syndicat des scénaristes, c'est le WGA. Donc c'est un syndicat qui est très puissant, qui est en grève depuis le 2 mai, et il proteste notamment pour avoir une meilleure visibilité sur ce qu'on appelle les droits résiduels. Ce sont des sommes qui sont versées au fil des diffusions des programmes télé sur les chaînes télévisées. Ils demandent aux plateformes de donner leurs chiffres d'audience, ce qu'elles ne font pas actuellement, et ce qui leur permettrait aussi d'avoir une meilleure visibilité sur leurs droits résiduels. En plus de ça, et ça c'est la deuxième revendication, les auteurs souhaitent également qu'on s'engage sur l'encadrement de l'usage des intelligences artificielles dans l'écriture de scénarios. Donc ça, ce sont leurs revendications. Tu veux dire quelque chose?
Ouais, juste pour préciser, aux États-Unis, on parle de guildes. Donc si on entend parler de la guilde des acteurs ou de la guilde des scénaristes, c'est les syndicats qui vont régir ces choses-là. Et quasiment tous les comédiens et tous les scénaristes qui travaillent professionnellement
dépendent de la guilde.
En dépendent. Et pour être, par exemple, nommé aux Oscars, c'est la guilde des Oscars. C'est les membres de la guilde qui vont voter pour la personne qui aura l'Oscar du meilleur acteur ou du meilleur scénariste.
Donc, voilà, depuis le 2 mai, ils ont été rejoints début juillet par les acteurs, par le syndicat, le SGA, le syndicat des acteurs, qui les a rejoints début juillet dans la grève, qui eux aussi demandent notamment protestent sur les questions de l'intelligence artificielle et sur la question des rémunérations. Les studios représentés par l'AMPTP, donc c'est un conglomérat qui représente les différents studios et producteurs de télévisuels, ils ont des réunions de manière assez fréquente. La dernière a eu lieu mercredi dernier. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas eu de réunion ensemble, mais cette réunion n'a rien donné, puisque la contre-proposition qui a été faite par les studios a été jugée nettement insuffisante par tous les grévistes. Et pour l'heure, les discussions sont rompues. On le rappelle, lors de cette réunion, les studios avaient proposé d'augmenter le salaire minimum fixe des scénaristes de 13% en l'espace de 3 ans et de partager avec les syndicats, avec le syndicat des acteurs et des scénaristes, les heures de visionnage des programmes diffusés en streaming. Et au niveau du système de paiement des droits résiduels, ils avaient, entre guillemets, fait une promesse de le réviser dans le futur, ce qui ne convient pas aux deux syndicats. Donc pour l'instant, les prochaines discussions sont renvoyées au calendrier grec. Voilà, et c'est une grève historique.
Et donc, tu dis, il n'y a rien qui a été proposé par les studios et les producteurs concernant l'intelligence artificielle qui, d'après ce qu'on entend, est quand même un élément important des revendications des scénaristes et des acteurs.
Au sujet des intelligences artificielles, ce que les studios ont proposé, c'est aux auteurs de pouvoir retoucher un script rédigé par une intelligence artificielle et d'être payé de la même manière que pour un scénario original, en étant également reconnu comme un auteur principal.
Donc là, on voit bien que c'est une situation qui, évidemment, bouleverse toute l'industrie, à la fois en production, mais aussi pour les sorties de films et les festivals, bien sûr. Hein. On rappelle que cette semaine démarre à la fois le festival de Venise, la Mostra et Deauville, et deux festivals pour lesquels s'est posée de façon très aiguë la question des talents, hein, des acteurs ou des réalisateurs qui peuvent ou non venir en conséquence de cette grève. Et plus proche de nous, la sortie également reportée de plusieurs films très attendus, à commencer peut-être par le plus attendu de tous, c'est Dune 2 qui donc a été reportée de
jusqu'à à mai 2024,
de novembre à mai prochain,
mars. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'absolument aucun studio n'est épargné par ça. Quand on parle des syndicats, ça concerne tout le monde là-bas. C'est-à-dire que plus personne, entre guillemets, ne travaille pour l'instant. Et que ce soit les représentants d'Universal, Disney, Paramount, Warner et Sony, voilà, chacun est concerné. Et les patrons de ces studios participent aux réunions. Pour autant, il n'y a aucune avancée pour l'instant. Et les plateformes sont évidemment aussi concernées par cela.
Ce qui veut dire que là, on a quelques conséquences aujourd'hui, mais que les plus grosses conséquences vont certainement arriver l'année prochaine. En tout cas, pour des films qui auraient dû entrer en production là maintenant, ou qui étaient en train d'être tournés, qui allaient rentrer en post-production, et qui vont certainement devoir décaler leur sortie, avec peut-être, courant d'année prochaine, une raréfaction de certaines sorties.
Oui, là on pourrait se poser des questions, c'est se dire, mais finalement, pourquoi on décale des films qui sont déjà tournés, qui sont déjà prêts? On les décale parce que, comme les scénaristes et les acteurs sont en grève, ils ne peuvent pas faire de promo. Donc Dune, il est terminé, le film, mais comme les acteurs ne sont pas disponibles pour la promo, le film est décalé. Ça posera davantage de problèmes si la grève continue encore, parce que là, c'est les tournages qui vont être impactés. Voilà. Certains studios ont tout leur slate de 2024 qui est en boîte, mais d'autres, ce n'est pas le cas. Donc ce sont ceux-là qui vont être le plus impactés.
Et on peut aussi penser que certains reports de sortie se font justement en prévision de reports ultérieurs qui n'ont pas encore été annoncés ou qui sont juste probables par rapport à des films entrés récemment en production.
Et quand on parle de promo, en fait, si on peut préciser un tout petit peu, c'est pas uniquement est-ce qu'on va voir les bandes annonces, est-ce qu'on va voir les affiches. C'est beaucoup plus gros que ça, c'est-à-dire c'est tout ce que font les comédiens ou les scénaristes en plus du tournage du film, à savoir participer à des interviews, participer à des tapis rouges. Et il y a en fait énormément de choses qui découlent de ça. Par exemple, quand on voit le vidéoclub de Combini, quand on voit les passages à la radio, les interviews à la télé, les sujets, toutes ces choses-là, ou même les vidéos vignettes qu'on peut voir dans les salles de comédiens qui présentent un petit peu leur film à venir, c'est toutes ces choses-là qu'on ne peut pas voir. Et donc prévoir la promo d'un blockbuster sans savoir s'il y aura accès au talent, c'est pas faisable en fait.
Julien, quelles sont les autres conséquences là, pour l'instant visibles de cette sortie parmi les autres films décalés
Non, j'ai pas de liste, mais c'est vrai qu'on pourra commencer à vous faire un petit état des lieux. Mais comme tu le disais, pour l'instant, c'est surtout, il y a les premiers gros films qui sont dus à la promo, comme on l'a dit, sur Dune. Il y a les calendriers, mais pour moi, l'impact, il va vraiment avoir lieu, à mon avis, surtout si ça continue, voire en 2025, où on va avoir beaucoup moins de films américains. Et on sait l'importance, en tout cas aujourd'hui, sur le box-office. Même en France, l'importance des films américains, on a pu le voir en tout cas sur tout l'été, même si on va rentrer sur une période un petit peu plus française, on sait au mois de septembre, octobre, en tout cas sur l'été, sur le mois de mai, même sur le mois d'avril, ça crée des décalages et ça va faire des trous sur le box-office.
Ouais. Ça va dépendre de la durée de la grève, de à quel point les tournages vont être impactés.
Exactement, bien sûr. Ouais, mais tu as déjà de toute façon... il y a déjà un impact qu'on peut ressentir, mais qui va être de plus en plus important. Et sur les festivals, bah, je ne sais pas, oui, Deauville, c'est quoi ? C'est Nathalie Portman qui ne vient plus...
Peter Dinklage également.
Peter Dinklage qui ne vient plus à Deauville. Alors en plus, ce n'était même pas pour faire la promo d'un film, c'était juste pour recevoir un Talent Award. Ouais. Mais on lui a dit, bah non, alors, je ne sais pas si c'est... On lui a dit, t'y vas pas, ou elle a dit... je suis solidaire, je n'y vais pas, mais ouais. Voilà, en tout cas, c'est, comme tu disais aussi sur les festivals, ça va, il va vraiment aussi, ça va, la star va se raréfier.
Eh bien écoutez, on va suivre évidemment tout ça au fil des semaines, mais tu voulais rajouter quelque chose, Max ?
Ouais, juste une dernière chose, c'est en fait, on se rend pas forcément compte de l'impact que ce type de grève peuvent avoir à Hollywood, mais la dernière fois qu'il y a eu une grève comme ça, c'est une grève de scénaristes qui était, il me semble, en 2009 ou 2010. Et c'était notamment les scénaristes de séries télé. Et ça a changé complètement le paysage des séries télé qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait à l'époque des séries qui avaient des saisons de 24 épisodes et 40 minutes, quasiment toutes. Et depuis, c'est un modèle qui a disparu. Parce qu'il y a eu une grève des scénaristes qui ont fait valoir leurs droits. Il y a des séries qui ont eu des saisons qui faisaient 6 épisodes au lieu de 24. Donc il y a eu un impact qui a été
là assez les films ne vont durer plus que 1h10 au lieu de 3h.
Non mais c'est juste pour dire que il y a eu un impact qui a été réel sur le paysage de la télé, de la série télé.
Non mais blague à part, en tout cas c'est sûr que il y a forcément des films qui auraient dû se faire qui ne vont probablement pas se faire, et ou en tout cas d'autres films qui vont se faire mais modifier profondément du fait de cette grève, soit parce qu'il va falloir embaucher d'autres personnes que celles initialement prévues, soit parce que, pour différentes raisons, ils vont revoir les modalités de production. Quoi.
Précision importante, pas de conséquences pour l'instant en France. Tout le monde continue à travailler de manière normale. Toutefois, certains acteurs, et notamment Louis Garrel, appellent à rejoindre la grève, notamment pour les questions d'intelligence artificielle qui, comme on peut s'en douter, toucheront toutes les productions du monde entier à un certain moment.
Voilà, revoyez le film Le Congrès d'Harry Folman qui, en début des années 2010, parlait déjà un peu des intelligences artificielles et de la propriété des acteurs de disposer de leur corps aussi dans les prochaines productions. On sent qu'on est à un tournant à Hollywood, que ce soit dans l'utilisation, on le disait encore au moment de la sortie d'Indiana Jones, ça met du de-aging et de ce rajeunissement numérique qui maintenant ne nécessite plus forcément la présence de l'acteur, ou alors de ces scénarios qui s'écrivent sans la présence de scénaristes. Voilà.
Et au-delà d'Indiana Jones, qui a fait un petit peu moins d'entrée, mais il y a The Flash aussi, qui a posé question à beaucoup de gens sur justement l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'image, pour utiliser l'image de comédien.
Ouais. Voilà, donc on est dans le sujet phare du moment à Hollywood, et forcément que ça aura un impact, on vous le dit, pour les prochains mois. Je voulais juste terminer cette grande parenthèse hollywoodienne pour dire quand même, Julien, tu l'as pas cité et ça m'étonne, que Jurassic Park est ressorti pour son 30e anniversaire, parce que c'est vrai que ça fait 30 ans, et il a fait quand même $1,700,000 de recettes sur le week-end. Et que Rétribution, qui est sorti en France aussi cette semaine, n'a fait que $3,3 millions. Voilà.
Ça c'est dit, mais je savais Jurassic, je te laisse toujours la priorité.
Ok. Alors justement, on va faire une petite pause maintenant et parler du box-office France.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Nous revoici avec cette fois Charlotte qui nous a rejoint. Salut Charlotte.
Salut Aurélien, bonjour à tous.
Pour parler avec nous de ces chiffres français, marqués évidemment par la sortie du film de Justine Triet, qui, c'est le moins qu'on puisse dire, a été à la hauteur des attentes, peut-être même au-delà des attentes de beaucoup. On l'a vu dès nous, mercredi dernier, enfin même en fait dès l'avant-première au Hall, où deux salles, les deux plus grandes, étaient pleines à craquer. Et mercredi matin, c'était un très bon démarrage, et là, c'est un très bon week-end.
Ouais, et puis c'est le film qui a permis de porter le marché, en tout cas de le laisser à une certaine hauteur, puisqu'on est en progression de 11% par rapport au week-end précédent, ce qui est très bien sur une fin de mois d'août. Et forcément, Anatomie d'une chute a pris sa part là-dedans, puisqu'il prend, il prend la deuxième position du box-office France cette semaine, ce week-end, grâce à un très beau démarrage à 262 000 entrées. C'est le meilleur démarrage pour une Palme d'Or en 10 ans, juste juste devant la vie d'Adèle. En tout cas, ils sont au même niveau vraiment avec la vie d'Adèle.
261 000.
Voilà, oui. ça se tient à la décimale. Quoi qu'il en soit, vraiment belle satisfaction pour le film de Justine Triet. Évidemment, meilleur démarrage de la carrière de Justine Triet, ça c'est une évidence. Voilà ce qu'on peut dire. Et évidemment, meilleur démarrage de la semaine.
Et le meilleur démarrage depuis une autre Palme d'Or française qui était Entre les Murs.
Exactement, 2008, Entre les Murs, qui a ouvert à 365 000.
Voilà, distribué à l'époque par Haut-et-Court. En tout cas, pour le Pacte, on n'a pas non plus le chiffre, mais c'est certainement l'un des meilleurs démarrages du Pacte depuis longtemps. On pourra essayer de retrouver le chiffre là tout à l'heure. À noter aussi que le film marche plutôt très bien, non seulement à Paris, mais aussi dans le reste de la France, avec un beau coef.
Ouais, tout à fait. Un beau coef de 3,7, c'est plutôt très bien en démarrage. On le rappelle, le principe des coefs, c'est toujours bien de le rappeler. Plus on est proche de 1, plus c'est un film qui perce sur Paris périph. Plus on est loin de 1, plus c'est un film qui perce en dehors de Paris périph. Donc voilà, 3,7, ça veut dire un équilibre très bon entre Paris périph et la province. Voilà, donc c'est un très bon démarrage. Je le disais, marché à 2,3 millions. Tout de même, malgré tout, encore avec Barbie en tête pour son sixième week-end consécutif, il résiste à l'arrivée d'Anatomie d'une chute puisqu'il cumule encore 288 000 entrées à son sixième week-end, ce qui lui permet de dépasser les 5 millions d'entrées. Il est désormais à 5 231 000 entrées. C'est donc évidemment le deuxième film de l'année derrière Super Mario Bros. Il est assez indétrônable, je pense, à ce niveau-là d'ici la fin d'année. Que dire de plus ? Maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher les 6 millions pour Barbie. Ça, c'est assez jouable malgré la rentrée qui arrive et qui va forcément mettre un petit coup au film, mais pas vraiment de concurrence immédiate pour Barbie.
Et on a regardé. Alors, c'est vrai que si on regarde, parce qu'il était très proche du Joker, mais Joker qui perdait un peu plus, là, ils sont à peu près au même niveau et le Joker, il termine à 5,6 millions. Donc, on le voit forcément, il n'y a pas de... Rien n'est jamais sûr dans le cinéma, mais on le voit en tout cas dépasser les 6 millions. Et en même temps, j'en ai profité pour regarder les chiffres de Top Gun Maverick. Et à sa sixième semaine, il était à 4,5 millions. Et ça veut dire que derrière, il a réussi à rajouter 2 millions d'entrées.
Ah oui. Top Gun Maverick, en fait, c'est sur la durée, il faisait des scores incroyables. C'est-à-dire qu'en sixième semaine, en septième semaine, en huitième semaine, il faisait plus 150%, plus 200% par rapport à des films qui faisaient 7 millions d'entrées au cumul.
C'est vraiment pour appuyer le fait que par moment, c'est impossible d'annoncer un chiffre définitif, voire illisible, mais c'est vrai qu'en tout cas, voilà, généralement, on sait qu'avec la rentrée, ça va prendre un petit coup derrière la tête, ça va se restabiliser, à quelle hauteur, on va voir. Voilà, en tout cas, on l'espère aller le plus haut possible, mais oui, dépasser les 6 millions, ça me semble assez logique, surtout après un tel engouement et après que le film soit devenu un tel événement, en fait.
Ouais, et puis on aurait pu penser qu'avec la sortie d'Anatomie d'une chute, il laisserait la première place et il est quand même resté premier.
Il est toujours là.
C'est ça qui est fou, quoi. Moi, ce qui m'étonne, c'est son érosion, seulement moins 13%. C'est un petit peu plus qu'Oppenheimer, on va le voir après. Juste pour terminer sur Anatomie d'une chute, j'ai regardé, en fait, c'est le meilleur démarrage du Pacte depuis Les Misérables, qui était toutefois assez nettement plus haut parce qu'il faisait 461 000 au week-end. Et c'est un démarrage relativement comparable à Première Année de Thomas Lilti, qui avait fini un peu au-dessus du million et qui avait fait premier week-end 283 000. Voilà.
Et sur les palmes, on est au niveau de Parasite également. Je ne sais pas si vous l'avez cité.
Non, on ne l'a pas cité. Tu as bien
fait.
Dans
on
les
l'a
mêmes
pas
zoos.
Cité, bizarre.
Qui démarrait
255.
Ouais. Voilà, mais un petit peu en dessous quand même. Du coup, enfin, il est là. Je veux dire, Anatomie d'une chute est un petit peu.
Mais par exemple, tu prends La vie d'Adèle, donc exactement le même démarrage. Il termine à 1 million. Tu prends Parasite 255, il termine à 2 millions.
Tu prends Jeanne Dubarry.
C'est pour ça qu'il faut suivre Opening Weekend toutes les semaines.
Exactement.
Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise.
Et petite question, est-ce que vous savez quelle est la Palme d'Or qui a fait le plus d'entrées en France de tous les temps?
Tu parles avec le passé, tout.
Ah là, on s'attendait pas à ce quiz Palme d'Or.
Ouais, Pulp, il est à combien un an?
Il est loin,
Pulp. Il est loin, 2-5?
Par là, 2-3, je crois.
Ouais.
Non, bah dis-nous, alors Palme
d'Or. Il
doit
y en avoir un à 4.
C'est une Palme d'Or française?
Non, je crois pas que ce soit français, c'est Quand passe le cigogne, sorti en 1958, ah oui. Avec 5 400 000 entrées.
Effectivement, 5 300 000 entrées quand même. Ça, c'est,
je l'aurais pas trouvé.
Kalatozov.
Mais pourquoi il faut écouter Opening Weekend ? Parce qu'on apprend plein de choses.
Voilà. Et exactement. D'ailleurs, hein, n'hésitez pas à liker ou à partager si ce contenu vous plaît. Donc, on le disait, Oppenheimer qui résiste encore mieux que Barbie, qui est toutefois troisième. Mais ouais. Là aussi, ça joue à un mouchoir de poche.
Bah, c'est ça. Là. On a un premier à 288, un deuxième à 254 et Oppenheimer juste derrière à 231 000 entrées. Il perd que 6%. Hein. C'est vraiment tout, depuis le début, Oppenheimer, c'est une très très bonne tenue. 3 920 000 entrées au total. La barre des 4 millions est en approche. Maintenant, si on le replace dans la galaxie Nolan, qu'est-ce qu'on peut aller chercher maintenant ? Eh bien, le prochain objectif d'Oppenheimer, ça va être d'aller chercher Dark Knight Rises, qui avait fait 4,4 millions. Quand on y repense, se dire que Oppenheimer peut faire plus que n'importe quel Batman de Nolan, c'est quand même assez fou.
Ouais, c'est assez phénoménal. Ouais.
Non, et moi, ce qui m'a choqué pour voir aussi le niveau d'Inception, je ne sais pas pourquoi je regardais un petit peu les différents résultats sur le même type de film, ou entre guillemets, même type de public. Et je me suis arrêté sur JFK, par exemple, qui est devenu culte. On a l'impression qu'il a fait des entrées énormes. Il s'est arrêté à 2,6
millions. Ouais.
Non, comme Interstellar.
Je rappelle ce qu'on disait la semaine dernière, aucun Scorsese n'a fait le score d'Oppenheimer. Aucun Tarantino. Enfin, si, il y a juste Django qui est encore un petit peu au-dessus des 4 millions. C'est ça, ouais. Mais il devrait faire plus que Django, qui s'était arrêté, je crois, à 4,3 millions, si ma mémoire est bonne. C'est dire si ce succès est phénoménal. Un mot peut-être de Quentin, parce que Quentin, on t'a laissé le soir de l'avant-première de Barbie. Il y avait beaucoup de monde. Alors, il y a déjà une chose à noter, hein. Je ne sais pas si vous avez entendu au début de l'enregistrement, mais il y avait pas mal de monde ce soir au Batignolles, peut-être moins que le soir de Barbie. Mais t'as vécu des moments très forts là, avant de partir en vacances.
Effectivement, on a battu tous les records au Batignolles cet été, depuis l'ouverture du cinéma, donc conjointement avec Barbie et Oppenheimer. On fait partie apparemment, là je me fie un peu à mes collègues exploitants, des rares où Oppenheimer est devant, depuis le tout début d'ailleurs. Il a toujours été devant Barbie en termes de chiffres. Effectivement, nous avec l'équipe, on l'a vu dès le début et on est un peu surpris en fait des chiffres globales, tout simplement parce que déjà le film est quand même très long et il ne s'adresse pas non plus à un tout public, même s'il n'a pas de classification particulière. Il se passe quand même d'une partie importante, notamment du public Batignolles. Pour rappel, on a un cinéma ici qui tourne aussi très fort sur le jeune public et on est les premiers surpris de voir qu'on continue encore et encore à remplir nos salles, je pense peut-être bien aidé par la Sphère, parce que c'est vrai que ça a bien fait vrombir la salle. Et de manière plus globale, effectivement, un très bel été qui a clairement été porté par Barbie et Oppenheimer, encore jusqu'à ce soir. Hein, le bruit que vous avez entendu tout à l'heure, c'était mon Barbie de 19h, qui a encore, je n'ai pas tout à fait regardé, mais il me semble que sur une salle à Incapa de 180, on était à 76 ce soir.
Peut-être que tu peux aussi nous préciser les choses, mais j'ai eu l'impression que les séances de reprise dans le cadre des 100 ans de Warner ont cartonné cet été.
Alors oui, et surtout, alors en particulier les classiques, on a fait pas mal. Nous, on a fait un choix, on a sélectionné un par jour du mois d'août, donc ça veut dire 31 films sur tous ceux qui étaient proposés. Donc on a fait un travail de prog et on a fait un espèce de mélange entre des films qui convenaient à nos équipes. Donc on a fait un espèce de micmac de ce qu'on avait envie de diffuser et aussi de films un peu plus classiques et les classiques se sont quand même vachement détachés du lot. Là on a si je ne dis pas de bêtises, en fin de semaine mardi soir on a un Citizen Kane avec 170 préventes, on a ce soir encore un Matrix à 150 également. Donc oui, on a très très bien performé sur la rétro Warner, mais globalement de toute façon ça a été un été au Batignolles en tout cas qui a été un peu sous cet augure là tout simplement parce que juste avant la sortie d'Oppenheimer, il me semble que ça on en avait parlé au dernier podcast, au dernier podcast de la saison précédente, on a aussi fait une petite rétrospective Nolan qui déjà annonçait un certain engouement du public pour venir voir dans nos grandes salles des films même un peu passés.
Et vous avez aussi repris Les Seigneurs des Anneaux.
Exactement, les trois. Alors c'est très drôle parce que j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, moi je reviens de vacances, hein, là, c'est ouais. Pour ça que j'écoutais beaucoup depuis tout à l'heure. donc j'ai regardé quand même les chiffres et Le Seigneur des Anneaux, c'est le premier qui a le plus performé. Ça a descendu en fait, alors pas de grand chose, hein, il me semble que le premier a fait 200, le deuxième 180 et le troisième 160. Et pour rappel, je crois que je l'avais déjà dit aussi, on a sorti les versions cinéma, pas les versions longues, parce que c'était un peu compliqué à caler en prog des films de 4h30. Mais un beau week-end, c'était le week-end dernier, les trois Seigneurs des Anneaux.
Les Seigneurs des Anneaux qui est d'ailleurs repris pour la première fois en IMAX en France dans les semaines à venir là. dans les cinémas Pathé. Donc ça, c'est un petit événement. Voilà, on va suivre. On s'est arrêté qu'aux trois premières places, donc c'est dire s'il reste encore quelques chiffres à donner. À la quatrième place, Tom, on trouve un film dont on a parlé la semaine dernière, mais qui fait une progression par rapport à la semaine dernière, justement.
Ouais, c'est la meilleure tenue du top 10. Une belle progression de 3% pour Les As de la Jungle 2, sorti par SND, qui cumule désormais 445 000 entrées. C'est mieux que le premier opus, hein, qui au bout de ses 10 premiers jours était à 311 000 entrées. Voilà, c'est un créneau intéressant à explorer, sortir un film d'animation à la mi-août. Beaucoup y trouvent leur compte. On parlait de Tad l'Explorateur, notamment l'année dernière, qui avait la même date. En tout cas, aujourd'hui, aller chercher 800 000, 900 000 entrées, ça paraît possible, hein, pour Les As de la Jungle 2. Et pour SND, ce serait évidemment une belle opération.
Gran Turismo, on a dit un mot déjà tout à l'heure sur sa sortie outre-Atlantique.
Gran Turismo qui tient bien en France, hein, pour le coup, lui, il s'en sort plutôt bien. Comme le disait Julien, c'est plutôt une jolie satisfaction. Seulement moins 9%, plus 158 000 entrées, 775 000 entrées au cumul pour le film Sony PlayStation Studio.
Et une autre sortie de la semaine dernière qui était signée Robert Rodriguez, qui était à Cannes aussi, il faut s'en rappeler. Hein.
Alors ça c'est la belle surprise pour le coup. Hypnotique, qui, soyons honnêtes, avait complètement raté sa sortie US, puisqu'il avait ouvert à peine 2 millions d'entrées, il n'avait pas fait beaucoup plus sur la durée. Lui est le deuxième démarrage en France, puisqu'il cumule à l'issue de ses 5 premiers jours 148 000 entrées. C'est dire l'appétence des spectateurs français pour Ben Affleck, surtout. Je pense que voilà, le film s'est beaucoup fait sur son nom.
Alors moi, je n'ai pas la même analyse. Moi, je pense plutôt que c'est le choix du distributeur SND de miser sur un film très proche de l'univers de Nolan et une affiche très Inception qui a fait venir du monde dans les salles plutôt justement que Ben Affleck, parce qu'ils n'ont pas mis Ben Affleck sur l'affiche principale.
Mais il y a son nom en très gros.
Ouais, mais contrairement aux US. Mais c'est vrai qu'après, Ben Affleck n'a pas plutôt, j'ai l'impression, une bonne image. En France, ouais.
Moi, j'avais un peu cette lecture aussi, parce que quand on le compare à Live by Night, qui est le dernier film qui a été vraiment porté par Ben Affleck et qui était de lui, on est quand même bien au-dessus, pour le coup, de son score, qui était plutôt un échec en France. Mm. Ouais, moi, j'avais un peu la lecture ça, un peu le côté Rodriguez et Cannes. Et donc un film un peu pour les cinéphiles, un peu le côté thriller aussi qui marche bien à cette période.
Puis il n'y a pas tant de thrillers que ça non plus dans les salles.
En tout cas, SND donc, a plutôt bien fait de parier sur ce film-là, puisque ses concurrents directs de la semaine, et il en avait, à commencer par Rétribution, le film de Studio Canal avec Liam Neeson. Lui est en 9e position, il démarre en 9e position avec 98 000 entrées. Je le disais à Julien en off, c'est un peu dur de lire pourquoi un film avec Liam Neeson marche et pourquoi un autre ne marche pas.
Tu veux dire parce que le scénario s'est fait en intelligence artificielle? Non, mais moi, juste parce que Rétribution.
Oui.
Parlons-en. Non, mais ouais. Alors, déjà, sur les titres des films de Liam Neeson, entre le vrai titre, le faux titre, par exemple Passenger, je crois que c'était Commuter. La rétribution, ils ont laissé rétribution, mais la définition de rétribution du mot français et la définition retribution du mot anglais n'est pas du tout la même.
D'accord.
Donc mais je pense qu'on peut s'y perdre.
Est-ce que tu as vu le film? Est-ce que tu vois quelle définition nous sommes le plus proche dans ce film?
Je pense que c'est la définition anglaise. Genre ouais. Un peu punishment, quoi. Punisher.
Alors, allez, et puis merci à Studio Canal d'avoir osé une super tagline, puisque sur l'affiche, on voit la tagline suivante. Cette journée avait pourtant si bien commencé. Voilà, on manque de jolies taglines et merci à eux de l'avoir fait.
Alors, elle ne vaut pas quand même celle d'une journée en enfer. Il y a des jours comme ça, point de suspension. Et moi, j'aimais beaucoup celle-ci.
Oui, mais donc, là, c'est encore une référence aux années 90.
Tu voulais dire quelque chose, Julien?
Ouais, que c'était un démarrage pas si mauvais, alors que justement, il y avait en plus déjà Hypnotique qui sortait en même temps. Alors, ça va être peut-être plus compliqué la semaine prochaine avec Equalizer. Mais Charlotte, c'était quoi les comps sur Rétribution?
Alors, sur Rétribution, moi, j'avais regardé plusieurs comparables. On avait donc Blacklight qui, lui, faisait 69 000 entrées, donc à l'issue de sa première semaine. Ice Road qui faisait 45 000 entrées.
Ah, mais là, on parle de la première semaine, contrairement au premier week-end.
Non, c'est donc... premier week-end.
Premier week-end, excusez-moi.
Okay. Ouais, Ice Road, c'est sans froid en français.
Sans froid, oui.
Mais voilà, comme le disait Julien, le film est en dessous de Passenger qui, lui, démarrait à 233 000 entrées. ou Night Run encore, qui démarrait à 178 000 entrées.
Alors, est-ce que, Max, tu connais le titre de Night Run en anglais ?
En français ?
Non, ça, c'est en français.
Ah. Non, ouais, moi, j'étais sur ça, Night c'est Run, c'est pas ça en anglais non plus.
Non, c'est pas ça, c'est... je l'ai plus, c'est Run All Night ou un truc
comme ça. Ah oui, c'est Run All Night, non, c'est exactement Run All Night. Moi, je suis pour qu'on les appelle Liam Neeson dans la neige, Liam Neeson dans le métro, Liam Neeson dans une voiture.
Et il y a Honest Thief aussi, je sais plus, c'est pas le même titre, mais là, j'ai plus le titre français, là, c'est le titre anglais.
On va retrouver ça, bien sûr.
Il y avait un truc avec
vous qui nous écoutez, vous êtes tous fans.
Si ça passionne des gens, ça, alors là, moi, je sais plus quoi faire.
mais on va. C'est pas The Good Criminal. C'est The Good Criminal. Ah, c'est ça.
Criminel, bien joué. Et Tom, pour la peine, tu feras une thèse pour la semaine prochaine.
Sur Liam ?
Bah, bien sûr.
Allez, c'est parti.
Alors, on va essayer de revenir à notre box-office pour finir le top 10. Donc là, je crois qu'on a vu à peu près tout le monde, Tom.
On n'a pas encore reparlé pour la France de En Autre et Trouble, qui continue sa très très jolie carrière, hein, puisque le film porté par Jason Statham est aux portes du 1,5 million d'entrées. C'est très très sensiblement la même carrière que le premier épisode. Donc si tous les deux faisaient aussi bien que les premiers, je pense qu'on aurait encore plus de suites qu'aujourd'hui. Bah, c'est un très beau score.
Ce qui est étonnant, c'est que le premier pouvait sembler être une anomalie, parce que faire 1 500 000 entrées sur un film comme vendu comme celui-ci, qui est plutôt un film d'exploitation, même s'il y a une star au premier plan, ça montre que finalement, on dit souvent que les stars des 90s ou des années 80, ou qui faisaient à l'époque plus d'un million d'entrées, sont d'un temps révolu, mais en réalité, on voit que Jason Statham attire, rien que sur son nom et sur un pitch très improbable, 1,5 million de spectateurs en France.
Ça montre aussi qu'il n'y a pas d'absolu, en fait. Parce qu'il y a des films qui, malgré l'image qu'on peut en avoir, arrivent à capter un public et arrivent à choper et à fonctionner. Et il y a des films qu'on peut voir avec vraiment le même œil et qui peuvent avoir vraiment la même image et qui vont sous-performer. Moi, je pense à Skyscraper avec The Rock, où c'était vraiment le même type de projet qui était vraiment fait aussi pour le marché chinois et qui fait deux fois moins d'entrées que The Meg et The Meg 2.
Il faudra comparer une fois qu'Expendables 4 sortira En Autre et Trouble, Expendables, parce que finalement on est un peu, même
je suis pas d'accord,
il n'est pas question de mégalodon, on est un peu sur la même typologie de film.
Ah, je veux dire, il n'est pas d'accord.
Non, Expendables,
parce que Expendables, je suis désolé, mais il n'y aura aucune fille qui va voir Expendables, même si en plus ils ont ramené des filles sur ce type de film.
Bah, il y a Megan Fox. Il y a des filles qui vont voir Megan Fox.
Ouais, mais là, il y a côté un peu plaisir coupable estival. Il y a le côté, on va un peu se faire peur, mais pas trop. On va, voilà. Le requin, il est gros.
On aime bien les films de requins. Ça fait partie des films de requins. C'est pas un film de baston.
On est dans un pays de films de requins. Ça,
alors là, c'est vrai qu'ils ont un peu mixé. Là où je te rejoins, c'est que c'est un peu mixé entre requin, Jason Statham, et qui s'attaque aux requins avec les pieds. Donc, forcément. C'est un peu mixé, mais non, c'est...
Après, moi, c'est la question aussi se pose de l'âge du public. Parce que pour moi, l'âge du public de The Meg est bien plus bas que l'âge du public de Expendables 4, notamment.
Ils connaissent pas Schwarzenegger, Stallone...
Qui
les jeunes.
Non, mais qui c'est les gars? Moi, je connais pas ça.
Je voudrais qu'on parle quand même de celui qui fait peut-être la plus grosse progression du top, plus 21% à la 11e place. C'est élémentaire, l'indéboulonnable élémentaire de Pixar.
On le disait déjà la semaine dernière, c'est un film qui a plus d'un titre et historique. Julien ?
Bah, on a refait le calcul, puisqu'on le refera un peu toutes les semaines. Je sais plus, l'année dernière, tu avais annoncé, on était à 7,50 ou sur le coefficient fin de vie, premier week-end. Et là, en tout cas, on est passé à 8. Ouais. Donc
c'est le multiplicateur entre le premier week-end et la fin de vie.
Voilà, donc nouveau record, en tout cas, sur les 10 dernières années, du multiplicateur sur la tenue du film tout au long d'une période.
Là, en l'occurrence, sur 10 semaines. Hein, et ça fait 10 semaines qu'il est à l'affiche et il vient seulement de quitter le top 10. Et il fait des entrées remarquables.
Mais c'est vrai, comme quoi c'est une nouvelle façon de consommer les films d'animation, puisque c'est pas non plus un coup d'essai, puisque ça tombe juste derrière Encanto, ça tombe derrière Puss in Boots, quoi, le Chapeauté 2. Il y a Élémentaire qui arrive. Alors évidemment, ça se joue aussi en fonction de la date de sortie. Si tu sors en pleine vacances, tu vas avoir un démarrage plus haut et donc un coefficient un petit peu plus faible sur la durée, mais tout de même, c'est quand même à noter que la consommation des films d'animation est différente aujourd'hui.
Rapidement sur les autres tenues remarquables, je pense qu'on peut noter Yannick par exemple, Tom.
Ouais, Yannick de Quentin Dupieux, 300 000 entrées au compteur à l'issue de ces 4 premiers week-ends. Le record pour Quentin Dupieux, c'est incroyable mais vrai, 317 000 entrées, c'est acté. Yannick sera le plus beau succès, enfin le plus gros succès de Quentin Dupieux sur ses 11 films.
Et je pense que parmi les autres belles tenues, on peut noter la Voie Royale, par exemple, de Pyramide, qui fait plus 7%. C'est aussi assez étonnant, la Voie Royale qui profite certainement de la fin des vacances et de l'imminence du début d'année scolaire pour faire quelques entrées, notamment auprès des jeunes, avec 85 000 entrées au cumul pour le film de Pyramide. Mais également les Algues Vertes, plus 4%. On en parlait déjà la semaine dernière, c'était déjà un beau succès, mais là, on s'approche gentiment des 370 000 entrées, 365
beaucoup
000 entrées
de films qui profitent en fait de la progression du marché sur la semaine et la progression du marché qui profite de la fin de la période de canicule tardive qu'on a eue. Et donc on a un marché global qui progresse, on a des chutes pour les plus gros blockbusters qui sont très limitées et on a les films qui performaient un petit peu moins la semaine passée qui en profitent d'autant plus qu'ils arrivent à progresser par rapport à la semaine dernière.
Ouais. Et aussi un très beau samedi-dimanche. Alors, tu as l'effet météo, évidemment.
Et l'effet retour de vacances, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont rentrés, qui n'avaient pas vu de film, ou ils ont entendu parler d'un film, et puis ils vont le voir.
Ouais, mais il est quand même vraiment supérieur aux années précédentes, l'effet week-end. Moi, j'appelle ça l'effet week-end. C'est, je calcule le samedi, dimanche sur le mercredi, qui te donne un ratio. Et c'est vrai que là, il tourne autour de 6. Et si tu reviens sur les années précédentes, tu dois tomber en 2016-2017, tu dois avoir du 5-5. Mais sinon, tu es plutôt quand même entre 5 et 5-5. Donc il y a vraiment eu le marché qui a augmenté samedi, dimanche. Quand j'ai regardé les chiffres, je me suis dit, bon, samedi, il y a peut-être eu un effet, retour de vacances, on y retourne. Mais non, ça s'est maintenu sur le dimanche. Alors après, oui, l'effet météo. Alors je ne sais pas quel temps il a fait partout en France. C'est vrai que sur Paris, ce n'était pas foufou.
Mais on a quasiment eu un week-end qui était quasiment un week-end de hors vacances en fait, avec déjà un très beau mercredi, jeudi, vendredi et un samedi, dimanche qui était vraiment fort, surtout pour un mois d'août.
Mais quitte à sortir des films plus gros, parce qu'en fait on sait que c'est une date qui marche bien, les gens sont disponibles majoritairement, on a pu le voir, il y a beaucoup de films français qui sortent à cette date, beaucoup de films indés avec des bons résultats. Alors pourquoi pas un jour tenter un blockbuster ?
Ouais, c'est à se poser la question de la frilosité des distributeurs sur ces deux dates de fin août qui sont finalement pas si mauvaises que ça et les résultats des films le montrent.
Voilà, est-ce que Charlotte, tu avais quelque chose à ajouter éventuellement sur un film dont on n'a pas parlé ? Tom, non ?
Non, juste on a oublié un démarrage, c'est celui du dernier voyage du Déméter, quatrième démarrage de la semaine.
Est-ce que c'est pas volontaire cet oubli ?
Non, parce qu'on parle des films qui marchent, mais on parle aussi des films qui marchent
moins
bien.
Mais oui, évidemment, je te charrie, mais 62 000 entrées, c'est ça ?
Et en fait, 62 000 entrées, c'est même pas vraiment un mauvais démarrage, c'est un démarrage timide, on va dire, pour le film qui parle du voyage de Dracula.
Voilà, non, c'est 234 entrées par copie, c'est tout à fait honorable pour un démarrage. Ce n'est pas non plus effectivement.
Combien avait fait Renfield, le dernier film qui parle de Dracula au premier week-end ?
Je ne sais pas.
Alors, fin de carrière, 35 000 entrées, mais premier week-end, pas beaucoup.
Donc, moins de 60 000 premier week-end. Ouais, ouais. Donc, c'est pas si mal pour Demeter.
Et d'ailleurs, un mot peut-être, Max, sur un film Sony là, dont on a parlé, qui est sorti que jeudi, vendredi. C'était quel film, ça, déjà ?
C'était Psycho Pass Providence. C'était un film Crunchyroll en fait qui vient de la jonction entre Sony et Crunchyroll et donc le film était disponible uniquement vendredi et samedi sur une séance par jour maximum par salle de cinéma. Ça a pas été annoncé je crois, mais il a fait à peu près 5000 entrées sur 2 jours seulement et à peu près 150 séances. Donc c'est un film très niche pour le coup, c'est vraiment un film qui faisait des ponts qui manquaient sur la série au global et donc qui n'était pas vraiment pour un public classique, qui était pour un public vraiment qui connaissait déjà bien la série.
Très bien, et quand même noter que Tortue Ninja a passé les 500 000, je crois qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est quand même aussi un cap important, même si évidemment on l'attendait peut-être un petit peu plus haut, mais c'est quand même plutôt notable, et les blagues de Toto 2, quand même 613 000 entrées au cumul sur les vacances.
Mais ça reste quand même moins bien que le premier épisode qui avait fini à 800 000 entrées, ça va être compliqué maintenant pour le blague de Toto.
Il termine à 1 million.
Ouais, à 1 million exactement, 800 000 entrées c'était au même moment de passage, donc oui, voilà, on risque d'avoir avoir un final un peu moins fort sur le deuxième que sur le premier.
Voilà, il fallait terminer ce box-office sur les blagues de Toto.
Des grosses
c'était
pour les
évidence.
Blagues de Toto. Alors que le premier avait fait une très belle tenue et une très belle carrière.
Ouais, tout à fait. Alors maintenant, on va se focaliser sur les sorties à venir. Et aujourd'hui, bien c'est Charlotte qui va justement nous parler du sondage que Mafili, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, a mis en ligne ce matin. Alors, quels étaient les films, Charlotte ?
Alors, on a 4 films cette semaine qu'on a mis dans le sondage. On a Equalizer 3, sorti par Sony, Banel et Adama, sorti par Tandem, Ama Gloria, sorti par Pyramide, et Sage Femme, sorti par Gecko Distribution. Arrive en tête le film d'Antoine Fuqua, Equalizer 3, avec 43% des voix. Juste en dessous, à 29%, Ama Gloria. Ensuite, Banel et Adama, et enfin, Sage Femme, avec 7%, et Banel et Adama, 21%.
Voilà, évidemment, on ne peut pas, bien sûr, tout mettre, mais certainement que la beauté du geste aurait fait aussi quelques sondés en plus, parce que c'est un film arthouse et qu'on a vu combien les films arthouse font des entrées. Mais c'est vrai, Charlotte, que pour l'instant, Equalizer 3 se détache du lot assez nettement. C'est de bon augure pour cette suite, qui d'ailleurs m'intrigue d'une certaine façon, puisque c'est le troisième film d'action de l'année à se passer avec le décor italien. Dans un décor italien, on avait Fast and Furious 10 qui se passait en Italie, Mission Impossible qui se passait également là-bas, et Equalizer 3, certainement qu'il y a des réductions d'impôts ou autre chose, je ne sais pas, mais en tout
c'est
cas
certainement les crédits d'impôts italiens, on va pas se mentir.
Et je pense qu'à Rome, là, ça attire beaucoup les Américains, le contexte romain. Bon, on va aller voir cet Equalizer.
C'est pas à Rome.
Ah bon, bah pourtant sur l'affiche, on voit le Colisée, non ?
Ouais, non, non, il y a un monument pareil qui doit être vers Naples.
D'accord, hein, autant pour moi. Bah, alors écoute, c'est une erreur.
Le génie du marketing.
En tout cas, ça marche bien et ça, visiblement, ça attire Equalizer. Troisième épisode donc, de cette franchise portée par Denzel Washington. Également l'affiche Super Bourré distribuée par Zinc qui a reçu la classification RSA, à noter, puisqu'on l'avait signalé déjà pour Oppenheimer la semaine dernière. Super Bourré l'a été également. Le rêve de Daisy chez Alba Film, c'est un film d'animation. Alors aura-t-il également quelques bonnes entrées sous le coude ? Ça, on verra. Banel et Adama, on l'a mentionné. Peut-être rappeler, Tom, sur ce film qu'il occupe une place particulière à Cannes.
Oui, déjà c'est le seul film africain de la compétition, c'était le seul premier film de la compétition également, premier film africain présenté en compète depuis Atlantique en 2019.
Ama Gloria, c'était à la semaine de la critique, si ma mémoire est bonne, distribué par Pyramide. La beauté du geste, donc on en parlait à l'instant, distribué par Arthouse. Et puis après, on a aussi Paradis, distribué par Jour de Fête. Sage-Femme, on le disait tout à l'heure, distribué par Gecko Distribution. Je ne connaissais pas ce distributeur. Numéro 10, distribué par ED Distribution. JHR Film sort cette semaine à l'âme, et puis après on a quelques reprises, mais donc pour les nouveautés ça nous fait 10 nouveautés au compteur, avec on va dire un film qui se détache du lot et un film français un peu plus populaire peut-être que les autres. Super Bourré, on verra si le côté super grave arrive à jouer en sa faveur. Alors, à noter que la semaine prochaine, nous aurons sur ce plateau un invité, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un réalisateur, le réalisateur de Tony en famille, qui a comme particularité d'en être à son deuxième film alors qu'il a moins de 25 ans. Il s'agit de Nathan Ambrosioni. Le film est distribué par Studio Canal, on les remercie d'avance. Il sera ici même sur ce plateau pour nous parler de la sortie de Tony en famille. Et à noter également, comme tu le disais Julien aussi en début d'émission, que les films français vont se bousculer là au Portillon à partir du 6 septembre. Donc c'est bien qu'on puisse aussi faire un point là-dessus. C'était un plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui. Merci Charlotte d'avoir déjoué les transports en commun pour venir jusqu'à nous, parce que c'était un peu compliqué. Merci à Tom, merci à Julien, merci à Max, merci évidemment à Quentin. Quentin, on t'a pas trop entendu sur la fin, un événement peut-être à venir au 7 Batignolles.
Bah oui, on sort super bourré.
Bah voilà.
À 6 heures par jour.
Et tu vends de la bière en
Exactement.
Plus dans le hall.
Alors j'allais en profiter pour faire ma petite pub. Donc on a une licence 4 au Batignolles, on a une IPA qui tabasse un peu. Donc si vous voulez suivre le mouvement et venir voir voilà. Super bourré,
c'est possible.
Au Batignolles
c'est
que ici. Ça se passe. On pourrait même prolonger l'happy hour, pourquoi pas.
Et voilà, c'est nul par ailleurs, vous l'aurez compris, il faut être au Batignolles. Merci d'ailleurs à toute l'équipe du cinéma de nous avoir accueillis une nouvelle fois. On se retrouve très vite, portez-vous bien et bon film, à bientôt.